C'est une émission spéciale sur les 3-8 consacrée à Benjamin Dupé, compositeur, guitariste et concepteur de spectacle. Une émission imaginée à l'occasion de la création de Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Un spectacle immersif qui inaugure la nouvelle édition à Marseille du festival Les Musiques du GMEM, Centre National de Création Musicale. Un festival qui va se dérouler du 9 au 19 mai 2012 dans de multiples lieux tels que l'Opéra, le Merlan, le Conservatoire, la Friche, la Belle de Mai, l'Alcazar, le Clap, Maison pour la Danse, la Criée ou encore le Gymnase. Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan, un spectacle installation-concert présenté ce mercredi 9 mai 2012 à 19h sur la scène du Théâtre du Merlan. Une petite heure donc sur la grenouille en compagnie de Benjamin Dupé, compositeur de 36 ans qui est passé par le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris auprès du guitariste Alberto Ponce, du compositeur et improvisateur Alain Savouré et du metteur en scène Georges Weller. Au-delà de ses compositions instrumentales, électro-acoustiques ou mixtes, Benjamin Dupé écrit également de la musique pour le spectacle vivant, le Cid de Duncan Donnellan par exemple, ou encore À bout de souffle et au bois dormant de Thierry Tionyang. Vous entendrez au cours de cet entretien avec lui des extraits de ses musiques compositions, Duende Electrico, La Guêpe, l'Orchidée et Comme je l'entends.
Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Une dernière chose qui est venue en cours de route, c'était finalement cette envie esthétique et puis cette envie de rassembler les gens à l'écoute de petites vibrations était aussi peut-être liée effectivement à la puissance de la musique et peut-être à un mythe fondateur qui est en train de me nourrir et qui sera pas le cœur du projet mais qui est le mythe d'Orphée, puissance de la musique, faire ramener Eurydice, son épouse perdue des enfers par la musique, en même temps la perdre parce qu'il se retourne et la voit. Donc voilà, il y a aussi un champ de mémoire qui est derrière tout ça, qui résonnera, j'espère, et qui est là comme un espace à reconstituer comme une caisse de résonance imaginaire, qui n'est pas là pour être donnée de façon narrative, qui résonnera peut-être avec ce qui nous constitue aussi comme gens de notre civilisation. Voilà. Merci.
Il a l'air traque-fou, hein, je ne suis pas obligé. Mais vous voyez ce travail qui interroge encore une fois cet accueil du public, cette préoccupation de comment on entend, comment on écoute, et comment on peut être amené dans cette introduction.
Dès que je prends un micro, ça...
J'essaie de le dire, je pense que avec les pieds.
D'accord. Là, ça va. Non, non, non.
Moi,
je
continue. Alors, je demande. Là, ça va. Ce micro sans fil, là, on peut faire quand
même. C'est bien sans micro.
C'est bien sans micro.
Oui, on n'a pas de problème.
Ah, je vais prendre la voix plus grave.
Bon. Alors, sans micro, on continue, deuxième point de rencontre.
Les fantômes, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. C'est une grande installation qui doit faire une dizaine de mètres par une autre dizaine de mètres, voilà, un peu plus de 100 mètres carrés. Et pour 50 spectateurs, parce que je voulais proposer un rapport vraiment intime et proche à la musique, à la vibration sonore. Vraiment une grande proximité entre les sources acoustiques et l'auditeur. Du coup, 50 personnes ensemble, ça prend quand même un petit peu de place, et l'ensemble des objets prennent aussi une certaine place. C'est une installation au sens où elle est scénographiée, et, elle dessine l'espace et elle raconte un certain nombre de choses. En revanche, pour moi, il s'agit vraiment d'un moment de musique, d'un concert, dans le sens où il est cadré dans le temps, il y a un début et une fin, il y a une dramaturgie de l'écoute, et dans le sens aussi où le public est, une fois placé dans l'espace, est en quelque sorte captif, hein, sans être enchaîné, mais il ne déambule pas, et il ne sort pas, il ne rentre pas quand il le sent, il assiste vraiment à une animation scénarisée de l'ensemble de cette installation sonore et visuelle. Donc c'est parti, visite guidée. Donc, sans tout dévoiler, parce qu'il y a une part de, il y a une part de surprise. Hein. Ben, on est entouré là par quelque chose qui à la fois dessine l'espace et nous isole du reste du plateau. C'est un ensemble de, on va dire, de plaques qui font 2 mètres de haut en métal, hein, et qui sont, c'est impressionnant, sont actionnés par un vibreur qui est derrière. Et en fait, on peut tirer des fréquences qui sont vraiment des fréquences de comme un instrument, comme un cuivre en fait, comme du corps ou du trombone. C'est très très impressionnant. Et il y a des plaques qui ont le même format et qui sont en fait des calicots de papier cristal. Il y a beaucoup de papier cristal. Il y en aura encore plus dans ce projet. Qui ont 2 actions, une que je ne dévoile pas, et une, elles sont traitées derrière par des petites percussions, des petits plombs de bêche qui produisent des crépitements en fait. Donc on a l'extérieur de la boîte, voilà, qui crépite. On est maintenant dans la zone plus centrale, donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui sont suspendues, qui tombent des cintres, des objets assez qu'on ne peut pas définir, ils ont été faits dans ce sens-là, la scénographie, on a vraiment cherché quelque chose d'énigmatique, dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. En fait, ce sont des verseurs, alors certains versent du grain, certains versent de l'eau. Et du coup, c'est un travail sur les écoulements ou les percussions indirectes. Voilà, il y en a une dizaine comme ça, suspendues en l'air. Il y a des cônes de papier cristal, voilà. Là, ce sont des petits fantômes qui se mettent en mouvement tout seuls, qui sont en fait animés par des basses fréquences. Qu'est-ce qu'on a encore ?
De la semoule dans un saladier.
Ouais, ça ne sera pas un saladier, ça c'est parce qu'il ne faut pas, faut pas visiter maintenant. On a mis les croix au sol pour
situer le
spectacle. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, là où on marche, on ne pourra vraiment pas marcher, ce sera rempli de sable. Donc, et on a ce que nous on appelle des goulottes, qui sont des grandes structures en bambou qui traversent le public, ou qui sont également derrière le public, et dans lesquelles roulent des cailloux. Des instruments à cordes réinventés, redessinés en fait, hein, qui sont. Le résonateur est une grande barre de bambou là, de 3 mètres de haut, qui structure aussi l'espace verticalement. Ça, ce sont des percussions plus traditionnelles, les cymbales, les triangles, voilà, toujours actionnés de la manière la plus discrète possible.
Et les ordinateurs seront à vue ?
Non, non, non. C'est vraiment l'idée d'être dans quelque chose le plus immatériel et le plus magique possible. Ça joue vraiment. Les premiers tests que j'ai faits avec des spectateurs complices des équipes du théâtre fonctionnent vraiment là-dessus. C'est-à-dire que c'est assez merveilleux de voir ces choses se mettre en vibration, se répondre, et puis la musique prendre son envol, mais tout ça sans technologie visible. Donc là, il y a effectivement beaucoup d'ordinateurs parce que tout est en phase de programmation, mais ils vont tous disparaître et ça fonctionnera absolument tout seul. Fantôme, un léger roulement est sur la peau tendue qu'est notre tympan.
Benjamin Dupé, comment vous en êtes arrivé à imaginer ce type de dispositif pour jouer votre musique ?
En fait, sur chaque projet, moi, j'ai toujours besoin d'inventer un cadre, un dispositif, quelque chose qui a toujours son origine dans une sensation musicale ou une émotion musicale, mais qui peut presque être extérieur à la musique. C'est une espèce de cadre sur lequel je m'appuie, un nouveau contexte, en fait, pour travailler, composer et inventer. Et c'est vrai que pour ce projet, les idées sont venues petit à petit. Et la première idée était de proposer un rapport particulier à l'auditeur-spectateur, un rapport particulier à la musique, une disposition du corps particulière pour l'écoute. Donc ça, c'était la première idée, et c'est ce qui m'a conduit au fil de différentes phases à imaginer une scénographie dite immersive, puisque les spectateurs sont au cœur de ce qui se passe, et à les imaginer aussi dans une position de corps qui ne soit pas forcément la position habituelle du spectateur qui assiste à un concert. On s'en rend pas encore tout à fait compte, mais on est assis là sur le bord de, pour l'instant ça s'appelle des samias, c'est des sortes de gradinage qui va être peu à peu recouvert de coco, comme on voit ici, et qui propose par exemple trois types d'assises différentes pour les spectateurs. Par exemple derrière vous, vous voyez que le dossier est assez loin, et ça veut dire que les spectateurs à cet endroit-là seront plus dans une position allongée, voilà, le dos légèrement maintenu, mais vraiment une position presque de banquet, j'ai envie de dire. Il y aura d'autres assises au sol, hein, sur des coussins qui sont travaillés avec des formes qui maintiennent également le dos. Et puis des assises un petit peu plus traditionnelles qui peuvent ressembler à des bancs. Voilà. Du coup, je pense qu'il va se passer deux choses. C'est à la fois, les positions de corps ne seront pas forcément habituelles. Et également, cette diversité va créer l'idée qu'on est ensemble dans un espace et que quelque chose a été préparé.
Toute l'installation là, c'est un schéma musical pour vous là, ce rectangle avec des choses suspendues, tout ça.
Ah, est-ce que ça a un sens musical?
Une architecture musicale.
Oui, alors oui, non mais c'est vrai que c'est architecturé à la fois dans le temps, c'est-à-dire la dramaturgie de ce qui va se dérouler. Et ensuite, bien sûr, c'est de l'espace. Donc, la musique, c'est de l'espace. C'est un son qui est devant, puis qui est à droite, puis qui est derrière, puis qui tourne autour de vous, puis un point juste devant, puis un appel très au loin dont on ne sait pas d'où il vient, puis des réponses de chaque côté. Donc, là, la particularité du dispositif, c'est qu'il a été conçu en collaboration avec Olivier Thomas, qui est le scénographe de toute cette aventure. Et plus que le scénographe, il a fait énormément de choses, y compris en développement et des mécaniques et en construction du dispositif et de certains instruments. Et du coup, c'est le fruit de cette collaboration, voilà, qu'il y a à la fois l'aspect visuel de comment occuper un espace, de comment créer un espace immersif qui soit agréable pour les spectateurs, et en même temps se débrouiller pour que les sources musicales et acoustiques aient les meilleures places possibles et que le langage qu'on peut développer à l'intérieur de cet univers soit le plus riche possible. Je pense que quand on écrit de la musique dite contemporaine, enfin là, la musique d'aujourd'hui, de la musique inventive, les adjectifs sont variés et peu précis. Et comment aujourd'hui, dans un monde où on peut écouter la radio en faisant la vaisselle, où on peut télécharger sur Internet, où on a peut-être tous des discothèques très très fournies, ou pas, et puis maintenant, voilà. les jeunes d'aujourd'hui, c'est que ça ne passe que par le téléphone portable, par exemple, leur rapport à la musique et au son. Donc, je dirais, mon premier endroit d'écriture, c'est de travailler sur cette position-là, la position de l'homme vraiment face au phénomène sonore et au phénomène musical, et non pas mis à distance sous forme de témoignages, traces, voilà. Donc ça, c'est l'enjeu de tout mon travail. Après, sur ce projet-là, c'est vrai que j'ai poussé, du coup, un certain nombre de choses. Par exemple, sur quel type de matière sonore travailler. Autour de nous, il y a du papier, il y a des grains qui jonchent le sol parce que tout n'est pas encore au point en termes de réception de ce qui va tomber du plafond. Voilà, il y a un certain nombre de matériaux sonores qui viennent plus finalement, on va dire, de la musique concrète, mais que j'ai eu envie de sortir du studio de l'électroacoustique et de la prise de son uniquement par micro, et que j'ai eu envie de donner à voir en plus d'entendre. Voilà, on voit les papiers vibrer, on voit ces grandes plaques de métal qui nous entourent se déformer, se mettre en vibration. Voilà. Donc il y avait cette idée de mettre en scène en quelque sorte l'acousmatique, ce qui est une idée un peu paradoxale. Personnellement, j'ai vraiment pas de. J'ai aucune contrainte esthétique, en fait, et de style de musique, a priori. Par contre, j'aime pas le formatage, donc j'ai du mal, même si par exemple je peux adorer certaines chansons, voilà, la chanson française, et j'ai quand même du mal avec des formats qui sont toujours autour de 3 minutes, qui passent bien dans les grilles radio, par exemple, ou sur les plateaux. Et c'est quelque chose qui me manque, même quand je vais voir un concert, voilà, pour prendre une référence, voir un concert d'Arnaud l'année dernière à Marseille, et j'étais quelque part sur ma faim par rapport à d'autres concerts que j'avais pu entendre, à quel point maintenant c'est formaté, il n'y a plus de moments où ça part en impro pendant 15 minutes sur la même chose, c'est tout cadré. Et je trouve que ce rapport-là à la musique est quand même vital et nécessaire aujourd'hui, ce pouvoir qu'a la musique de complètement déconstruire le temps et nous enlever de nos urgences pour nous en proposer une autre qui est une urgence purement musicale. Voilà, c'est la seule, on va dire que c'est le seul endroit de barrière que moi je vois. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, plus les musiques sont formatées et connotées, moins naturellement j'ai d'attirance pour elles.
Mais le registre dans lequel vous officiez, la musique contemporaine, c'est devenu aussi un format quand on prononce ce terme de musique contemporaine.
Oui, dans un certain inconscient collectif, c'est peut-être devenu un format. Dans la réalité, voilà, j'invite les auditeurs à vraiment aller se déplacer d'une proposition à l'autre, et ils se rendront compte qu'il y a une diversité absolument incroyable, et il y a des ponts également entre différentes musiques qui se révèlent aussi assez incroyables, finalement. Je pense que c'est une certaine musique contemporaine d'une certaine époque qui donne cette idée-là. Honnêtement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus poreux, me semble-t-il, que ça. Enfin, en tout cas, moi, je ressens de moins en moins de sectarisme, que ce soit chez les autres compositeurs ou les directeurs de structure ou les programmateurs, et bien sûr chez le public. Donc, non, c'est en train de se libérer tout ça.
Un extrait de Comme je l'entends dans cette émission spéciale consacrée au compositeur Benjamin Dumpé, une émission imaginée en partenariat avec le GMEM, Centre National de Création Musicale. Benjamin Dumpé, que nous avons rencontré il y a quelques jours sur la scène du Théâtre du Merlan, où il finissait par mettre la dernière main à son spectacle Fantôme, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Un spectacle concert-installation qui ouvrira ce mercredi 9 mai à 19h la nouvelle édition du festival Les Musiques, organisée à Marseille jusqu'au 19 mai prochain par le GMEM.
Ce qui me surprend un peu, c'est que la musique, elle est toujours porteuse d'un sens ou d'une émotion. Et je trouve que celle-là, j'arrive pas à la relier à une émotion. Que j'étais en train d'imaginer de la mettre dans une histoire, dans un opéra, quelque chose comme ça. J'arrive pas à... On a l'impression que c'est juste une attente. Je sais pas trop quoi dire, à part que... Je pense que si tu me donnais le CD, je crois que je l'écouterais jamais. Ouais. Enfin... Je n'arrive pas à trouver le moment où j'aurais l'envie de l'écouter. Voilà. Et je l'imagine comme un intermède dans une création artistique, mais qui aurait également un pendant, soit chant, enfin, du chant en plus, ou alors une action, un visuel qu'on verrait, et qui serait un accompagnement à quelque chose. Ouais, je l'imagine beaucoup comme un accompagnement à quelque chose. Et puis tout de suite, moi ça me vient au... Parce que je me dis, dans ce genre de musique, moi je dirais que c'est expérimental, parce que je pense que... Je peux pas m'empêcher de me faire la réflexion qu'on a plus de plaisir à la jouer qu'à l'entendre. C'est-à-dire qu'on a plus de plaisir à expérimenter et à se faire plaisir avec son instrument que à l'entendre. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a dit, mais que la musique, c'était l'art de mettre ensemble des sons et de manière harmonieuse. Là, il y a une harmonie qui est là. J'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de direction.
C'est à la fois profond et chaud. C'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre du toucher et de l'ordre de la couleur.
Ouais. Il y a une forme d'harmonie, mais je trouve que c'est une harmonie sonore et pas une harmonie musicale. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, ça ?
C'est profond. C'est profond et en même temps, c'est... C'est soyeux, c'est...
C'est vrai que ça, on peut le mettre dans la catégorie musique zen, etc. C'est-à-dire mais du coup, ça la dévalorise, parce que c'est quoi ? C'est la musique qu'on n'écoute pas.
C'est un peu comme... un peu l'intérieur de la Terre, quoi. Quelque chose de... qui serait dans le mouvement de la Terre. Je trouve ça caressant, avec des petits moments acides là.
Par contre, juste le truc que je viens de réaliser, c'est que l'absence de sens, je sais pas, moi c'est un mot qui me vient à la bouche, on a l'impression que ça va nulle part. Par contre, du coup, je pense qu'on est plus attentif au son même. Au son même de chaque instrument. Est-ce qu'ils sont beaux ou pas ? Enfin, si on continue à l'écouter, on entend plus vibrer, par exemple, il me semble.
C'est très ample aussi, je trouve.
Alors que
Je sais pas, quand on écoute un opéra, on n'écoute pas... Moi, j'écoute pas la qualité des violons, j'écoute la direction qu'ils ont, la mélodie qu'ils enchaînent. C'est quelque chose de dynamique, alors que là, c'est plus figé, mais du coup, on est plus dans la pureté du son. Je pense qu'il y a un phénomène, comment on dit, ça hypnotise d'une certaine façon.
C'est aussi la répétition, je pense, qui est envoûtante.
Ça crée des modifications. On est emporté par la musique, véritablement.
Benjamin Dupé.
Il y a effectivement un projet que j'ai fait avec des habitants de tout Marseille, que j'ai mené au Merlan. Et. Qui partait de cette question un peu cliché dont on parlait tout à l'heure, cette musique contemporaine un peu rigide et qui serait presque voilà, un genre en soi et puis pas forcément très agréable à entendre. Et en fait, c'était un projet qui partait de cette question-là, c'est-à-dire très simplement, voilà, moi je fais de la musique contemporaine, comment c'est perçu, qu'est-ce qu'en pensent les gens, voilà, j'avais envie, pas de régler, mais de soulever cette question et... pour voilà, arrêter d'avoir honte de donner un disque à quelqu'un qui me le demande, parce que je sais qu'il va essayer de l'écouter, qu'il ne va pas y arriver à tous les coups. Et du coup, voilà, j'avais réuni avec le Théâtre du Merlan une vingtaine d'auditeurs avec qui j'ai travaillé pendant une saison, et on a travaillé sur la mise en mots de leur perception de cette musique-là. Et j'ai passé un an à leur faire écouter des choses, à discuter avec eux, à enregistrer leurs paroles. Et l'ensemble de ces paroles est venu ensuite nourrir un spectacle qui a pour titre « Comme je l'entends ». Et dans ce spectacle, ma musique et moi-même, puisque c'est un solo dans lequel je joue, dialoguons avec ces paroles d'auditeurs dits profanes à la musique contemporaine. Et qui, au final, en fait, disent un certain nombre de choses à la fois très poétiques et très vraies sur cette musique.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté, à vous, cette expérience ? Vous n'avez plus honte de faire de la musique contemporaine ?
Non, j'ai vraiment jamais eu honte, mais par contre, ça me faisait sourire de soulever cette question. Moi, c'est un projet qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est important, la musique. Il y a beaucoup de moments qui nécessitent de la solitude. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de moments qui nécessiteraient du partage. Et finalement, ces moments-là sont relativement rares, quoi. Je veux dire, en dehors du moment de concert. Il se passe pas forcément après beaucoup de choses, il se passe pas forcément avant beaucoup de choses. Et là, il s'est passé beaucoup de choses avec un groupe de personnes pendant longtemps. Donc ça m'a déjà apporté ça. Je creuse pas plus que ça parce que je veux que ça reste un peu... je veux que ça reste léger, mais la réalité des paroles qui ont été soulevées mais en fait me sert encore dans mon travail. Parce qu'il y a quelque chose d'assez, finalement d'assez objectif dans tout ça, et si je suis honnête, je peux le raccrocher à certains travers de mon travail de compositeur ou de ma musique. C'est-à-dire, de temps en temps, j'ai tendance à faire une musique un peu excitée, et c'est qui laisse pas beaucoup de place, contrairement à ce que je dis. Donc voilà. Non, c'est pas pour faire la musique en fonction de ce que les gens demandent, mais quand on travaille sur la sensation, sur le rapport d'intimité avec l'auditeur, c'est important quand même d'avoir des retours et de savoir comment il sent les choses. Donc
c'est pour moi, c'était du bruit.
C'était intenable. À certains moments, ça me... c'était insupportable, cette musique-là.
Pour moi, c'est encore... ça détruit quand même pas mal, des sons.
Et ce que j'ai pu entendre à la radio, bon, m'a toujours beaucoup déconcerté.
Je coupais la radio, hein.
C'était conceptuel.
Sa sonorité ne m'apaise pas. Elle me met dans un état de cristal cassé, tu vois. Ça me met en mille morceaux.
Comme quelque chose qui se traîne.
Quelque chose de complètement déstructuré, qui me tape un peu sur le système nerveux.
Ouais, après je suis pas là pour me torturer le tympan non plus quoi. Enfin, des fois, souvent je reproche quand même, c'est des musiques qui m'agressent.
Parfois ça peut détruire la musique. Et ça fait comme des dissonances, des grésillements.
Beaucoup de picotements dans les dents.
Dans tout le corps.
Et de nouveau des picotements dans les dents.
J'ai pas envie de me torturer en plus de la vie quotidienne qui est pas toujours agréable.
Je comprends pas très bien.
C'est vraiment pas le genre de musique que j'écouterais.
C'est assez angoissant, hein, comme musique.
Mais là déjà, ça m'angoisse.
Ça, c'est le genre de musique que mon fils, il a horreur.
J'ai du mal à penser à une structure.
Je pense que je suis incapable d'écouter de ça pendant plus de 5 minutes.
Des petits pics désagréables qui sont durs à supporter.
Comment on peut écouter cette musique?
Mais c'est la première fois de ma vie que je sors d'un théâtre avant l'heure, quoi.
Benjamin Dupé, qu'est-ce qui vous a amené à la musique?
Ça, c'est une histoire que je raconte dans un autre spectacle, mais c'est vrai que ça reste une histoire vraie. Moi, je suis venu à la musique par hasard, hein, puisque mon petit frère était inscrit à l'école de musique en Normandie, où nous étions enfants. Et il a arrêté en cours d'année, et mes parents ayant payé l'inscription pour toute l'année, la direction de l'école de musique a proposé que le grand frère que j'étais, prenne la place. Donc voilà, je suis tombé dans une école de musique à 8 ans, sans l'avoir vraiment décidé. Et puis en plus, il se trouve que je suis guitariste, et c'est du fait qu'en cours d'année, il n'y avait plus qu'une seule place dans la classe de guitare. Donc voilà, c'est le hasard total, mais finalement, pas trop mal fait les choses. Voilà, puis après, ça a été très vite. C'est vrai que je le dis assez peu, mais c'est... voilà, c'est une chance, de quand ça se passe bien, de rencontrer l'enseignement de la musique à ce niveau-là, et d'avoir des bons professeurs. Et donc, voilà, j'ai enchaîné mes études musicales jusqu'au Conservatoire de Paris, comme ça, de manière assez naturelle.
La composition, c'est arrivé comment?
Je pense que c'est arrivé pour plein de raisons. Alors, après, on dit c'est arrivé. Disons qu'il y a une version officielle qui, effectivement, à un moment, on peut dire... Mais en fait, moi, j'écrivais déjà des petites chansons, des mélodies quand je, avec mon synthé, quand j'avais 10 ans. Donc, finalement, la création a toujours fait partie de mon travail. Et je pense d'ailleurs que pour beaucoup de musiciens, c'est le cas. On a toujours tendance on a souvent trop tendance, et notamment en France, à séparer les pratiques entre l'interprétation, l'improvisation et la composition. En général, quand on a un rapport profond et charnel à la musique, voilà, y a un tas de connexions se font. Plus historiquement, plus concrètement, on va dire, c'est vrai que c'est passé par deux choses. D'abord par la rencontre avec Alain Savouret au Conservatoire de Paris, qui est à la fois un compositeur, une des figures de la musique électroacoustique française, mais qui est également un inventeur, un maître d'œuvre, imaginant plein de projets qui remettent la musique dans une perspective sociale et phonoculturelle, dirait-il.
C'est-à-dire
de travailler sur la culture du son qu'ont les gens, donc également de pouvoir travailler dans des régions précises, de s'appuyer sur des territoires donnés et de travailler avec la culture musicale ou sonore qui est en place, et de faire sonner toutes ces différences ensemble, là, de s'appuyer sur les intervalles qu'il y a entre les différentes choses pour composer. Et du coup, c'est vrai que la rencontre avec Alain Savouret a été décisive, puisque voilà, je me suis rendu compte dans sa classe, qui était une classe dite d'improvisation générative, qu'on pouvait à la fois écrire des projets vraiment dans une globalité, c'est-à-dire pas seulement la musique, mais le contexte dans lequel cette musique va être donnée, le sens qu'elle a éventuellement, même le sens social. Et puis, il y avait une pratique de l'improvisation dans cette classe qui était pour moi assez bouleversante. Et je me suis rendu compte que du coup, je pouvais sonner par moi-même. Voilà, on disait beaucoup ça, sonner par nous-mêmes avec notre instrument. Et très vite, voilà, l'idée d'aller plus loin dans l'écriture est venue. Il y avait aussi les influences classiques, on va dire. Moi, je suivais les classes d'écriture au sens harmonie, contrepoint, que j'avais commencé au Conservatoire de Nantes. Donc j'avais également ce rapport-là, on va dire, avec le fait de mettre des sons sur un papier ou sur une piste d'électroacoustique. Voilà.
Quelles sont les influences du compositeur Benjamin Dupé ?
Donc vraiment influence au sens où je reste très très modeste par rapport à ça, mais c'est vrai que moi les émotions que j'ai eues et que j'ai toujours avec des compositeurs aujourd'hui classiques, comme Stravinsky par exemple, restent très très fortes et me nourrissent constamment.
Pourquoi ?
Ah ben Stravinsky, c'est à la fois évident et puissant, c'est à la fois une mécanique savante et en même temps il y a une âpreté, une espèce de rituel qui est là en permanence. Il y a un savoir-faire aussi purement technique qui est extrêmement remarquable. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément envie de creuser à chaque fois trop ce qui me nourrit parce que ça reste de l'ordre de la digestion. Il ne faut pas la perturber, mais Stravinsky, Ravel pour l'époque classique. Après, dans la musique contemporaine, c'est très étonnant parce que j'ai un rapport aux œuvres contemporaines qui est très parcellaire. Il y a des œuvres qui vont me toucher profondément et certaines autres œuvres du même compositeur, pas du tout. Donc c'est difficile de faire des... Voilà, de poser des noms comme ça. C'est difficile et puis c'est indélicat vis-à-vis de tous ceux qu'on oublie. Mais après, voilà, ça va de Ligeti, Morton Feldman, la musique électroacoustique dans son ensemble, particulièrement l'école, on va dire, l'école française. Quelqu'un comme François Bell, par exemple, que je réécoute souvent. Et puis des influences en dehors du chant classique et contemporain, bien sûr. Pink Floyd, tout ce qui a un travail sur le son et l'expérimentation par le son, évidemment, me touche.
Quand on est instrumentiste, on se pose la question à un moment donné de la virtuosité. Quel est votre rapport, vous, à cette question ?
Ah bah c'est, en fait, c'est assez simple. Je trouve que la virtuosité la plus intéressante et pas la plus facile à mettre en œuvre, c'est une virtuosité de l'écoute. C'est-à-dire, en fait, par exemple, pour l'instrumentiste, c'est pas tellement une technique digitale, même si, évidemment, je suis loin de la renier. Ça fait partie de ma formation, mais c'est une technique de sensibilité qui fait qu'on est capable, dans des intervalles de temps extrêmement courts, des millièmes de secondes, de passer d'une nuance à une autre, d'avoir le silence exactement de la bonne durée, de savoir en se posant sur sa chaise, par exemple, si on joue assis, de savoir même de commencer comment on va adapter son jeu en fonction de la salle, de savoir réagir aux imprévus, à ce qui se passe dans le public. Et ça, c'est une virtuosité de l'écoute, en fait. De pouvoir...
l'improvisateur.
Mais pas, non, parce qu'un interprète classique met en jeu exactement les mêmes facultés dans son interprétation, en fait. Il adapte en permanence ce qui se passe, la réalité de son jeu.
Benjamin Dupé, pour terminer, comment ça s'est fait, cette collaboration avec le GMEM ?
En fait, en réalité, c'est un projet que j'avais proposé, parce que ce genre de projet est long à monter, il faut quand même le savoir, aussi bien à écrire, à concevoir, à réfléchir, qu'à monter en termes de production, et de collaboration, de soutien. Les fantômes, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Donc du coup, c'est un projet que j'avais proposé à Raphaël De Vivo, qui était l'ancien directeur du GMEM, qui s'était mis en route tranquillement. Et puis l'arrivée de Christian Sebi, le nouveau directeur, n'a fait que redonner encore plus d'ampleur à cette chose. Puis Christian a tout à fait récupéré cette proposition de programmation de Raphaël. Et donc on est parti ensemble comme ça sur un compagnonnage qui va évidemment de l'accompagnement studio. Je travaille par exemple avec l'assistant du GMEM qui est spécialisé dans le développement informatique, Charles Bascou. Et puis donc j'ai eu du temps de studio là-bas, du temps d'échange avec eux, un soutien également en production important, une place dans le festival Les Musiques. Et puis aussi, c'est le fait de travailler comme ça, soutenu par le GMEM, c'est aussi un endroit d'échange où on peut discuter sur le projet, préparer les publics. J'ai été rencontrer des classes avec les équipes du GMEM qui vont avoir droit à des séances particulières. Voilà, donc c'est important de ne pas être tout seul.
Mais c'est un projet évolutif.
Alors dans l'idéal, c'est un projet évolutif. Là, je vous avoue qu'à 8 jours de la première, je ne pense pas à la forme évolutive qui viendra après. Mais c'est vrai que l'idée que j'ai, c'est de réutiliser tout ou partie de ce dispositif qui a été quand même construit soigneusement pour pouvoir ensuite me balader dans des endroits qui ne sont pas des endroits de spectacle et scénographier des endroits de vie. Et y proposer une autre version de cette installation, et en travaillant non pas du coup sur le fantôme qui serait Eurydice, mais en travaillant sur un habitant qui serait lié à cet endroit de vie. Donc voilà, c'est l'idée de réutiliser comme ça cette installation qui vit toute seule et de la disposer dans différents endroits quotidiens qui ne seraient pas des endroits de spectacle pour le coup.
Vous êtes originaire de Normandie, je crois, et vous vivez à Marseille depuis quelques années.
Ouais.
C'est un choix musical, Marseille ?
C'est un choix de vie personnelle, en fait, donc ça fait depuis 2005 que je me suis installé, du coup pour des raisons personnelles, mais je dois dire que je ne me suis pas senti mal accueilli musicalement, bien au contraire, ça s'est fait assez rapidement, assez simplement. aussi grâce à d'autres artistes et pas uniquement des musiciens. Je pense à des gens avec qui j'ai collaboré dans cette ville, comme le chorégraphe Thierry Tionyang par exemple, qui m'a ouvert la porte très très vite et avec qui on a vécu de belles aventures.
Avec Patrice Chiron.
Voilà, il y a eu ce projet avec Patrice, mais il y avait eu d'autres projets aussi avant. Du coup, je trouve que c'est un endroit où finalement on peut se croiser assez facilement, on peut faire des choses ensemble assez facilement.
Il fait quoi votre frère aujourd'hui?
Mon frère est directeur d'hôpital à Niort, voilà. Mais il a toujours beaucoup de guitare dans le peu d'espace qui lui reste dans son bureau.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était une émission spéciale sur les 3-8 consacrée à Benjamin Dupé, compositeur, guitariste et concepteur de spectacle. Une émission imaginée à l'occasion de la création de Phantom, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Un spectacle immersif qui inaugure la nouvelle édition à Marseille du festival Les Musiques du GMEM. Un festival qui va se dérouler du 9 au 19 mai dans de multiples lieux marseillais. Phantom, un léger roulement et sur la peau tendue qu'est notre tympan, un spectacle, installation, concert présenté ce mercredi 9 mai 2012 à 19h sur la scène du Théâtre du Merlin. Merci d'avoir été à l'écoute, plus d'infos et contacts sur Benjamin Dupé sur le site benjamindupetoutattaché.com et plus d'infos et contacts sur le festival Les Musiques 2012 sur le site gmem.org. Prochain rendez-vous sur Radio Grenouille autour de ce festival, ce sera le mardi 15 mai de 22h15 à 23h15 en direct depuis le Théâtre de la Criée en compagnie de Christian Sébille, directeur du GMEM, de la chorégraphe Maud Leplanec et des membres de l'ensemble Ictus.